vieux monsieur qui accueillit une chèvre, je crois.
La blanquette.
Et il lui a interdit de partir de chez lui. Et à un moment, la chèvre, elle voulait être libre. Du coup, elle est partie dans la montagne.
Elle a besoin de se dépenser, la chèvre. Parce que normalement, c'est dans les montagnes.
Sauf que la nuit, après, il y a un loup. Il arrive.
Et ils se sont battus et la chèvre est morte.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. La langue française est pleine de jolies expressions, mais il y en a certaines que j'aime encore plus que les autres parce que je les vois. Oui, la scène existe presque sous mes yeux. Tirer sur la corde en fait partie. Quand un prof à l'école me disait que je tirais sur la corde à toujours bavarder, l'image me faisait sourire alors que c'était pas drôle. Ça voulait dire que j'abusais de sa patience et qu'il allait se fâcher. Mais quand j'entends cette expression, je vois une corde qui va bientôt craquer. Même chose pour la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et je ne vous parle même pas de l'expression s'arracher les cheveux. Ces métaphores sont trop visuelles, elles me déconcentrent et me détournent de ce qui est dit. Alors aujourd'hui, je vais me réconcilier avec cette histoire de corde grâce à un pauvre animal qui n'en peut plus de tirer dessus. Ses envies de promenade usent la patience de son maître. La chèvre de Monsieur Seguin est au menu de Barbatruc. Pas seulement elle d'ailleurs. Cette histoire est l'un des contes que l'on trouve dans Les Lettres de mon Moulin, un livre d'Alphonse Daudet qui a des raisons de séduire les jeunes lecteurs et jeunes lectrices d'aujourd'hui. Pas la peine de s'arracher les cheveux, pas la moindre goutte d'eau qui ne déborde du vase, mais on tire sur une corde, ça oui. Quel est le prix de la liberté? Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une émission réalisée par Christophe Humbert, préparée par Mao de Butler, Michel Bézikian, Grégory Wallon et Natacha Nouvelot sont à la technique. Deux invités avec moi jusqu'à 18h. L'une est à distance, l'autre en studio. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue, vous êtes écrivain et éditeur, amateur de ces Lettres de mon Moulin d'Alphonse Daudet. Vous aussi, vous voyez la corde quand quelqu'un utilise cette expression, tirer sur la corde?
Ce genre d'expression, en effet, se croise la situation actuelle et tout ce qu'on connaît, et tous les livres, tous les petits livres qu'on nous a racontés. Et donc, oui, bien sûr, on va tirer sur la corde. Moi, ça me rappelle surtout la chevillette Chéra. Mmh.
Vous voyez pas de chèvre, en tout cas.
Pour l'instant, je vois pas de chèvre, mais elle arrive.
Votre dernier livre, Laurent Nunez, Regardez-moi jongler, aux éditions du Cerf, est un recueil de nouvelles, de contes et de poèmes autour de l'orgueil. Ce livre appartient à une collection d'ouvrages sur les 7 péchés capitaux. Vous vous êtes coltiné l'orgueil et pas la paresse ni la gourmandise, qui sont pourtant bien plus rigolos comme péché.
Oui, c'est vrai, mais on m'a obligé, on m'a demandé, et je me suis un peu vexé d'ailleurs, parce que je me sens pas si orgueilleux que ça.
La vanité, c'est pour vous.
Oui, voilà. Oui, c'est pour ça, je sais pas comment interpréter.
Ma deuxième invitée est avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon. Bonjour Carole Five.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes aussi écrivaine et l'ombre de Monsieur Seguin plane sur l'un de vos romans, Carole Five. Tenir jusqu'à l'aube, c'est le titre de ce livre paru chez Gallimard qui vient de paraître en livre de poche. C'est une référence à la chèvre de Monsieur Seguin. Alors on parlera tout à l'heure des liens entre votre roman et cette histoire. D'abord une question sur Alphonse Daudet peut-être, écrivain français du 19e siècle. Il est peu cité aujourd'hui comme source d'inspiration par les artistes. Il n'est pas franchement dans l'air du temps. Comment l'expliquez-vous?
Bah effectivement, c'est une littérature qui a peut-être un peu vieilli et on a l'impression qu'elle s'adresse exclusivement aux enfants, alors que quand on relit par exemple Le Petit Chose, on voit toute l'actualité, enfin c'est un grand écrivain. Mais c'est vrai que peut-être cette image finalement de Fernandel, du Midi, de l'écrivain du Moulin, etc., c'est peut-être un petit peu interposé entre nous et son œuvre. Et il y a aussi certaines réputations, on en parlera peut-être plus tard.
On va entendre justement Fernandel nous lire cette histoire. Est-ce qu'il a une image d'écrivain du terroir, Alphonse Daudet, Laurent Nunez, ou une image plutôt d'écrivain pour faire des dictées à l'école?
Oui, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que, enfant, j'ai abordé la chèvre de M. Seguin en dictée, très souvent en récitation.
Il y a des mots compliqués. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais. À la fin, je veux pas dire que c'est du provincial, mais je sais pas, la fin, il y a une phrase à traduire. Mais en effet, c'est un auteur qui peut-être apparaît en effet comme une sorte d'auteur régional, et c'est pas un compliment parfois pour certains. Donc, on l'étudie beaucoup moins.
Alors qu'il était parisien, Alphonse Daudet.
C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, il a jamais vécu dans un moulin. Il était parisien, il était de toutes les soirées de tous les littérateurs. Voilà, c'est un pur produit de l'intelligentsia.
Du moment.
Du moment. Peut-être qu'il faudrait le redécouvrir, mais c'est compliqué parce qu'on a l'impression que si on le célèbre, on célèbre certaines valeurs refuges. Et ça passe pas très bien auprès de certains professeurs, en tout cas.
Il a une image réac, dis-le.
Voilà. Oui, complètement, voilà.
On va écouter cette histoire, La chèvre de Monsieur Seguin. C'est effectivement Fernandel qui la raconte. Alors, je plante d'abord le décor. Monsieur Seguin n'a jamais de chance avec ses chèvres. Il les perd toutes, elles se font la malle pour aller gambader dans la montagne. Après 6 chèvres perdues, il en achète une 7e, qui est très jolie et bien plus docile. Mais un jour, la chèvre se met à regarder la montagne et elle se dit qu'on doit être bien là-haut. Et l'herbe de son enclos lui paraît bien fade. Voici la suite avec Fernandel.
Barbatruc, Dorothée Barba, sur France Inter.
Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose. Mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois. Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Ah, mon Dieu, elle aussi, cria monsieur Seguin stupéfait. Et du coup, il laissa tomber son écuelle, puis s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre. Comment, Blanquette, tu veux me quitter? Et Blanquette répondit, oui, monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici? Oh non, monsieur Seguin, tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde? Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. Alors, mais qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux? Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra? Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. Le loup se moque bien de tes cornes. Il va manger des biques autrement encornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude, qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit. Puis le matin, le loup l'a mangée. Pécaille, hein. Pauvre Renaude, ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit monsieur Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres? Encore une que le loup va me manger? Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. Là-dessus, monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre. Et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla.
Un enregistrement qui date des années 1950. Alors ma première réaction, pardonnez-moi d'être prosaïque, c'est une chèvre qui parle, Laurent Nunez.
Oui, mais ça dérange personne, non. Après La Fontaine, après Ésope, c'est vraiment, on est habitué. Mais en fait, c'est un indicateur de conte et de fable. C'est-à-dire qu'on sait que ce qui va venir va être irréel, impossible, et qu'il y a une visée morale derrière. Et donc, c'est hyper intéressant. Et vous savez, par exemple, c'est marrant, quand on écoute ces contes, ben, moi, je retombe vraiment dans l'enfance, et j'entends bien que j'arrive pas à m'identifier à Monsieur Seguin, parce que c'est un
vous
être...
Vous êtes la chèvre, plutôt. Ben,
mais oui, mais oui. Je crois que les enfants, toujours, eh ben, ils sont plus proches d'un animal que d'un adulte. Un adulte, c'est tellement loin, c'est tellement différent d'eux. Du coup, on est automatiquement la chèvre.
Carole Five, vous aussi, vous êtes la chèvre?
Oui, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est un conte qui parle à l'enfance de chacun, et donc ça peut aussi, chacun peut se situer différemment. Moi, je me voyais effectivement comme la chèvre, et en le relisant récemment, on voit aussi qu'en remplaçant chèvre par femme, ça fonctionne très bien. Donc ça peut être un enfant, une femme et une chèvre, ça dépend.
Ce qui me frappe aussi dans ce premier extrait, c'est l'humour. On parlait de cette image un peu réac d'Alphonse Daudet, il y a beaucoup d'humour dans ses écrits.
Il y a beaucoup d'humour. C'est compliqué parce que là, en plus, on entend l'accent de Fernandel qui rajoute au texte. Il y a beaucoup d'humour et en même temps un certain cynisme. Par exemple, moi, quand je le lisais, enfant, j'éprouvais ce désir de la chèvre de partir. Moi, j'étais dans une famille qui m'adorait et qui, m'adorant, m'étouffait. Pour moi, l'extérieur dans ma famille, c'était le danger. L'impossible, il fallait rester dans la famille et tout. Et donc, du coup, c'est très facile pour moi de m'identifier à cette chèvre. Mais j'étais très surpris quand je disais enfant. Et là, dans l'extrait qu'on entend, la première chose que dit Monsieur Seguin, quand elle lui demande de partir, il dit « Oh, elle aussi ». Et là, d'un coup, moi, en fait, c'est ça. Mon désir de partir n'est pas mon désir à moi. En fait, visiblement, c'est le désir de tout le monde.
Je serai pas le dernier.
Alors, ça veut dire que où sont les autres? C'est ça. Et du coup, c'est même pas moi. Donc, du coup, ça m'embêtait un peu ce désir que j'avais de partir, parce que c'était peut-être pas le mien. Mais voilà, j'attendais la suite.
Et ensuite, alors, eh ben ensuite, évidemment, la chèvre s'échappe, pardi.
Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On la reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentait bon tant qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit fête. Vous pensez, si notre chèvre était heureuse, plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchât de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes. Et quelle herbe savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs donc, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à longs calices, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans les jambes en l'air et roulait le long des talus pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop ! La voilà partie. La tête en avant à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin et là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de M. Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait d'un saut de grand torrent qui l'éclaboussait au passage de poussière humide et d'écume. Alors toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cite isodant, elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Oh, que c'est petit !» dit-elle. « Comment ai-je pu tenir là-dedans » Pauvrette, de se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque. Et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même qu'un jeune chamois, pelage noir, eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi les bois une heure ou deux, et si vous voulez savoir ce qu'ils dirent, allez le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse.
La chèvre de Monsieur Seguin, lu par Fernandel, un extrait des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Alors on a beau savoir comment se termine cette histoire, et on l'entendra tout à l'heure évidemment, on goûte quand même la liberté de la chèvre, Carole Five, de se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. Elle est belle cette liberté, non ?
Oui, je pense que justement elle est d'autant plus belle et qu'elle est interdite et qu'on a été prévenu dès le départ par Monsieur Seguin et on la goûte d'autant plus. On a l'impression que c'est l'enfant qui rêve peut-être de première liberté, d'adolescence, là, les premières prises de risques, etc. Donc c'est d'autant plus la jouissance est d'autant plus forte, effectivement.
Est-ce le plus beau passage de cette histoire, à votre avis, Laurent Nunez ?
Moi, je suis complètement interloqué parce que je m'en souvenais absolument pas.
C'est pas vrai.
Je viens de me dire qu'on a peut-être utilisé une version. Dès que cette émission finit, j'appelle mes parents pour leur demander.
On a caviardé votre livre.
Ouais, ce moment-là d'adolescence, on a l'impression qu'elle part en Erasmus. Complètement, voilà ça, ouais, qu'elle découvre la vie. Je ne la connaissais pas. Elle est très belle. Bon, là, on découvre, il y a un morceau de poésie, il y a du vocabulaire, et on entend des noms de fleurs que je ne connaissais même pas. Il y a un vrai travail très beau. Et en même temps, aucun enfant n'est dupe quand il entend ça. Vous savez, quand ça monte si haut, ça va descendre bientôt.
Alors là, vous êtes un peu pessimiste, peut-être, non, Laurent Nunez ?
Bon, c'est un conte. Tous les enfants savent qu'à un moment, il manque un adversaire, quoi. Mais c'est bien, il faut que ça monte, justement.
Nous poursuivons dans un instant cette promenade avec la chèvre de Monsieur Seguin. Voici d'abord Édith de Préto, choisi par Jean-Baptiste Audibert.
Barbatruc de Dorothée Barba sur France Inter.
Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche, avec un dans les poches, faisais moi la fine bouche. Je prenais toutes les avances, de sourire pas très cash. Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. En triplet dessert, je reculais l'attente. Des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en top que je prenais pour scène. Je me sentais comme un coq, mais je flottais que sur la scène. Maquillé au pinceau, un solo pour mariage, avec costume Célio et l'odeur du fromage. Je posais comme il faut, les gens menaient pas large. Je me sentais parfois trop entre rêve et noyade. J'étais lui qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'il entre les tables. J'entends du Rihanna avec un accent grave qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames. Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau. je découvrais Paris.
Je découvre l'étranger.
Tu viens d'où il fait gris.
Où on laisse tout trop l'air.
Les monuments crarés.
Emportés comme jamais.
Avec une envie.
Installée sur ce pavé.
À chanter toute ma vie.
Pas les chansons des autres.
J'en avais dans le vent.
Pas du saumon le nôtre.
J'attendais patiemment.
Monter sur le trône.
Qu'on reprenne mes chansons.
Comme je reprends vie en rose.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau. Je devais quitter mes Nike, les laisser sous le bateau. C'était pas assez classe pour l'image de ce show. Je n'avais qu'une hâte, m'en montrer ce que je vaux. Montrer combien je fake, les jantes le manalo. Le soir je m'improvisais, la vedette du bateau. En maquillant mes souhaits, au parfum du ghetto. Tous les soirs je trinquais, rêve fou de mon ego. En attendant je réglais mes grands rêves au chapeau. Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, début, début.
Barbatruc a des envies de montagne cette semaine, des envies d'évasion. Nous parlons de La Chèvre de Monsieur Seguin, un conte à lire dans Les Lettres de mon Moulin d'Alphonse Daudet, livre paru au 19e siècle. Laurent Nunez et Carole Five sont mes invités, deux écrivains, deux lecteurs de Daudet. Alors la charmante chèvre a goûté à la liberté, ça nous a donné envie évidemment de poser la question à des enfants. C'est quoi pour toi la liberté et que ferais-tu surtout si tu étais libre ?
Moi, j'aimerais pas aller à l'école.
Moi, j'aimerais me coucher à 1h.
À 1h du matin.
Bah, regarder un dessin animé.
Je pourrais jouer à la console.
Faire un peu ce qu'on a envie de faire.
Moi, je ferais tout ce que j'aimerais faire. Bah, par exemple, j'aimerais faire une chasse au trésor ou monter sur un bateau, et bah, je le ferais.
Aller à la fête foraine.
Bah, ça veut dire qu'on peut faire... plus de choses qui nous plaît que les autres et on n'a pas trop de règles à suivre. Je me roulerais par terre.
Bah un peu c'est faire ce qu'on veut sans règles. Enfin les règles c'est imposé par nous-mêmes quoi. Donc si on veut pas de règles, on n'a pas de règles, si on veut des règles, on a des règles.
En fait, libre ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on a envie. Ça veut dire on peut faire tout ce que tu veux. Et faire des trucs dangereux et aller où on n'a pas le droit d'aller et faire des aventures.
Pour moi, c'est pouvoir vivre dans la forêt, dans les collines, être en liberté, pouvoir se nourrir tout seul, trouver une famille, se faire des amis, pouvoir jouer et ne pas être dans des petits enclos et tout serré dans des fermes, ne pas être attaché, pouvoir courir partout,
faire des trucs un peu fous et sauter partout et faire des cascades dangereuses.
Je ferai des pirouettes sur les branches des arbres. Ah oui, je m'occuperai des animaux blessés ou abandonnés. Voilà.
Moi, ce que j'aurais fait, je vais allumer un ordinateur et je vais pouvoir voir plein de films. Je vais prendre tous mes bonbons de la maison, je vais tous les manger, je vais m'amuser, je vais faire des calipettes jusqu'à ce que je me casse la figure.
Alors je précise que notre reporter Juliette Proutot a tourné ce micro-trottoir dans les rues de Paris avec des petits citadins et des petites citadines qui manifestement ont des envies de nature hein, et de pirouettes sur les branches des arbres. Ces définitions de la liberté vous semblent-elles satisfaisantes, Carole Five ?
Oui, parce que c'est vraiment la liberté là qui est vécue. Après, le contraire de l'interdiction, en fait, la désobéissance et les premières libertés. Et je trouve que ça correspond aussi bien à l'histoire de la chèvre, puisqu'après, enfin, elle souffrait quand même de bovarisme aigu, de fait de son enfermement. Et on voit quand la scène que vous avez passée précédemment, elle est comme une liberté énorme, même une liberté sexuelle avec le chamois, etc. Donc, tout est possible. Donc, effectivement, ça parle à l'enfance, bien sûr.
Elle souffre de bovarisme aigu, dites-vous. Donc, elle est comme Emma Bovary. Qui s'ennuie dans son ménage. Laurent Nunez, quel est votre passage préféré dans cette définition hétéroclite de la liberté?
Ce qui est amusant, c'est que, enfin, on est dans l'époque, hein, c'est que la plupart des enfants rêvent finalement d'être déconfinés. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, on sent qu'ils veulent être ailleurs qu'à Paris, loin, à l'air libre. Oui. Mais c'est amusant, là, il y a des enfants qui disent trouver une famille, une famille.
Aller se promener dans la nature, se choisir sa famille, je crois.
Oui, c'est assez mignon.
On embrasse ses parents au passage.
Voilà, il y a deux choses. C'est que tout d'un coup, ça veut donc dire que sa précédente famille généalogique, ou il faut qu'il discute avec eux. Mais en effet, c'est typiquement de l'époque, on peut construire, recréer sa famille, retrouver. C'est amusant que ce soit un rêve. C'était ça aussi le grand rêve, vous savez, d'Internet, c'est-à-dire retrouver n'importe qui, avoir des amis à distance et sans aucune bulle. On a tous l'impression, et surtout quand on est adulte, qu'il y a une sorte de bulle qui nous empêche de rencontrer d'autres personnes très très différentes. Moi, quand j'entends là le désir des enfants, c'est vraiment d'explorer l'ailleurs, mais l'ailleurs aussi dans les relations.
Voilà qui prouve en tout cas que cette histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, elle est universelle et donc contemporaine.
Franchement, qui est satisfait de l'endroit où il est? C'est vraiment ça. Il y a une phrase de Baudelaire que j'aime bien où il dit la vie est un hôpital où chaque malade voudra avoir le lit de l'autre. Alors c'est la version triste de la chèvre, mais c'est presque ça. Il y a un désir. On peut appeler ça le désir simplement. En psychanalyse, le désir c'est un moteur très très puissant qui n'est pas du tout un désir sexuel ni rien. Le désir, la volonté de faire quelque chose. C'est ça qu'il faut cultiver, d'ailleurs, peut-être.
Il est grand temps d'écouter la fin de cette histoire. La chèvre, donc, rencontre le loup. Ce dernier est certain de la manger, mais il prend son temps. Et la chèvre, elle, veut tenir jusqu'à l'aube.
Père Patrick.
Alors, le monstre s'avança. Et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur. Plus de 10 fois, je ne mens pas, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ses trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis, elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair. Et elle se disait, « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. » L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne. Le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant du coq enroué monta d'une métairie. Enfin, dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea.
Terrible fin. Alors, Carole Fives, quelle est la morale de cette histoire selon vous? Ne surtout pas s'aventurer dehors?
Ben, en fait, il y a plusieurs interprétations. Il y a effectivement une qui est moralisatrice plutôt, et même paternaliste, qui est un peu jeune fille jeune enfant. Je sais, tu rêves de liberté, mais prends garde au prédateur qui t'attend au tournant. Mmh. Et il y en a une autre qui est aussi une lecture féministe de la chèvre de M. Seguin, que moi j'ai plutôt développée dans ce sens-là dans mon roman, qui est « Mieux vaut mourir libre qu'emprisonné », finalement. C'est aussi le message de cette histoire, puisque à un moment, elle peut rentrer, on l'entend bien dans le texte, elle peut retourner chez M. Seguin, et elle se dit qu'elle ne pourrait pas retrouver la corde et le piquet après ce qu'elle a vécu, après cette liberté éprouvée, et qu'elle choisit la mort, et choisit de manger d'ailleurs jusqu'au bout cette herbe, et de profiter jusqu'au bout.
Ouais, c'est frappant, cette façon d'aller manger de l'herbe régulièrement pendant qu'elle est face au loup. Jusqu'au bout, elle profite des plaisirs de cette escapade.
Oui, vraiment, on voit qu'il y a chez elle vraiment, effectivement, comme disait Laurent Nunez, un désir de liberté très fort et un désir de profiter.
C'est un souvenir d'enfance traumatisant pour vous, Carole Fives, cette histoire?
Parce qu'effectivement, la voix de Fernandel le rendait vraiment l'histoire très presque tangible. Enfin, on avait vraiment ce... bon, chacun bloque sur des mots, et moi j'avais vraiment bloqué sur, je sais pas, les babines d'Amadou, quand il dit aussi c'était le loup, il était là. Et ouais, il y a plein. Puis quand il parle aussi de, imite le cri du loup contre la trompette de Monsieur Seguin, qui fait reviens, reviens. Donc moi, j'étais vraiment saisie par le côté terrifiant. Par contre, je l'ai relu il n'y a pas longtemps à mon fils de 6 ans qui me disait « Moi, j'adore quand la chèvre va dans la montagne. On sait qu'il y a le loup, mais c'est toujours possible qu'elle gagne.
Qu'elle gagne, parce que vraiment, c'est ce qu'il dit. C'est possible qu'elle gagne.
Oui. Ouais. À chaque fois qu'on relit l'histoire, il pense que peut-être cette fois-ci, elle va gagner. Donc, je pense que chacun vraiment.
Ne brisez pas cet espoir, je vous en prie. Laurent Nunez, même chose. Souvenir d'enfance terrible.
Ouais, moi, il y a deux interprétations qui s'entrechoquent. En effet, quand j'étais enfant, je détestais cette histoire parce que j'ai l'impression que mes parents avaient raison. C'est vrai, il fallait pas aller dehors. Il fallait pas aller dehors. Il y avait des loups. Et donc j'avais vraiment l'impression que c'était presque du bourrage de crâne qu'on me donnait ce texte-là pour bien me montrer que même la littérature me disait que ça. Et puis là, quand même, j'ai un peu mûri. Et je crois que c'est d'être en première, en terminale, par là. Je l'ai relié avec un concept de Nietzsche qui s'appelle l'amor fati, qui est l'amour du destin. Vous savez, voilà, il y a un moment, ben c'est ça, cette chèvre qui combat en sachant qu'elle va perdre. C'est ça, c'est l'amour fati. À un moment, il n'y a pas à se rebeller contre ce qu'on ne peut pas changer.
Autant y aller avec panache.
Ben, autant y aller avec panache, il ne faut pas abandonner, mais autant y aller et profiter jusqu'à la fin, en sachant bien que y a des efforts et même quand elle mange de l'herbe alors qu'elle va bientôt mourir ou quoi. Moi, ça me rappelle, vous savez, Socrate qui, alors qu'il y a une condamnation, qui va mourir, on lui demande ce qu'il veut faire et il dit je veux apprendre à jouer de la flûte. Et il dit mais tu vas mourir dans 3 heures. Il dit alors je veux mourir en sachant jouer de la flûte. Et ben voilà, c'est la même chose que la petite chèvre et l'herbe. C'est le désir de poursuivre la vie, même si on sait très bien quelle sera la conclusion.
Alors question cruelle, la chèvre a-t-elle bien fait de s'évader? Cela valait-il la peine?
Oui, elle a bien fait parce que elle a fait la meilleure journée de sa vie.
Bah parce qu'elle a passé une journée extraordinaire.
Là, je préfère encore être enfermée que d'être dévorée, hein, moi.
Oui et non. Moi, j'aime être enfermée parce que sinon, il y a des animaux sauvages qui peuvent nous griffer ou nous manger ou nous croquer.
Mais en fait, c'est oui et non parce que au début, elle aime bien sa journée parce que elle fait un peu ce qu'elle veut, mais à la fin... Et ça se finit mal, du coup, moi, je sais pas trop si ça vaut le coup ou pas.
Bah, ça valait quand même le coup. Peut-être qu'elle trouvait qu'elle était trop enfermée pour une chèvre et elle voulait se laisser aller.
Ça valait le coup parce que c'est soit vivre une longue vie triste enfermée, soit vivre une courte vie mais heureuse. Donc, je préfère être heureuse, moi, qu'être triste.
Non, ça valait pas le coup.
En fait, si. Parce qu'autant, genre, elle allait découvrir. Et si elle avait une deuxième vie, je pense pas qu'elle aurait fait la même erreur.
En fait, c'est mieux de passer le meilleur jour de sa vie que passer toute sa vie enfermée.
En fait, elle est morte, mais elle est pas morte totalement bêtement.
Mais ça sert à rien de vivre longtemps si t'es pas heureux.
Voilà, merci.
Mais en gros, ça veut dire là, je peux être libre, très libre, et après me mourir. Enfin.
Ouais, parce qu'elle a profité avant de mourir.
Mais on peut très bien profiter.
Mais non, parce qu'elle est attachée. Parce que t'étais en prison et qu'on te disait, tu fais un choix, tu restes en prison ou tu sors, mais genre tu meurs ce soir. Voilà.
Je dis oui parce que quand même, du coup, elle a pu s'amuser, danser, courir et ne pas rester attachée à un enclos.
Bah moi, parce que déjà, elle a passé une bonne journée et puis elle pourrait passer aussi une bonne vie et elle pourrait peut-être danser dans le ventre du loup.
Moi, je pense que quand même, il y a très peu d'animaux qui finissent leur vie par la vieillesse.
En vrai, elle a profité du coup parce qu'elle n'est pas restée dans son enclos et tout. Donc en vrai, elle a profité avant de partir. Parce que sinon, elle serait restée dans son enclos, elle aurait rien fait et voilà. Donc en vrai, on peut dire que bah ouais, genre ça valait le coup, mais... Elle a quand même perdu sa vie à la fin de la journée, quoi.
De jeune philosophe au micro de Juliette Proutot. J'aime beaucoup cette idée que la chèvre, après, va se mettre à danser dans le ventre du loup. Carole Five, le dilemme, je vous le soumets aussi. Alors, a-t-elle bien fait, à votre avis, la chèvre?
Pour moi, c'est les conditions du choix telles qu'ils sont posées dans le conte, c'est un faux choix. C'est ça que je refuse, en fait. C'est la liberté ou mourir. Non, pourquoi faut-il choisir, en fait?
Elle vous met en colère, cette histoire, non?
À partir du moment où moi j'y ai vu, effectivement, après en grandissant aussi, qu'en remplaçant chèvre par femme, ça fonctionnait très très bien, elle m'a mise en colère, effectivement, parce que j'ai vu aussi un conte liberticide. Et puis pourquoi aussi le loup est-il dehors? Pourquoi il ne serait pas finalement à l'intérieur? Pourquoi c'est forcément le danger dehors? Il y a beaucoup de choses qui me gênent quand même. Ouais.
Le danger, ça peut être Monsieur Seguin, donc. Ça peut être lui,
exactement,
le loup.
Exactement, voilà. Exactement.
Tenir jusqu'à l'aube, je le disais, c'est le titre de l'un de vos romans, qui est une référence explicite à la chèvre de Monsieur Seguin. Et pourtant, votre roman n'est pas du tout une histoire de chèvre, Carole Fim. C'est l'histoire d'une mère célibataire qui s'échappe de chez elle, si je puis dire, pendant que son bébé dort. Mais vous y avez glissé par petites touches des extraits de ce conte. Pourquoi ce conte-là en particulier ?
Oui, parce qu'au début, c'est vrai, je voulais vraiment raconter le quotidien d'un parent célibataire et de huis clos avec son enfant et la difficulté. Cette mère est travaillée en freelance, donc comme elle n'a pas de mode de garde, donc elle est tout le temps avec son enfant. Et c'est une période très très dure, la petite enfance, elle la vit un peu comme les parents confinés au mois de mars, devant travailler avec cet enfant dans les pattes. Et au début, je me suis dit, elle a envie de liberté, mais qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Et j'avais envie de l'abandonner. Donc je suis plutôt partie vers le petit poussé avec une envie de l'abandonner, avec le bébé qui la suivait avec des cailloux dans la rue. Ça marche. Je sais pas du tout, vu qu'il était très jeune. Enfin, j'avais pas. Et d'un seul coup, j'ai vraiment lu l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin à mon fils, et ça m'est paru comme une évidence. Cette envie de liberté, d'émancipation de la mère célibataire, la chèvre l'incarnait à merveille.
On trouve d'ailleurs une citation d'Alphonse Daudet en exergue de ce livre. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Il y a dans la nouvelle d'Alphonse Daudet une manière de stigmatiser l'envie de liberté qui est universelle, on le disait tout à l'heure.
À votre avis? Je ne sais pas, mais oui, il y a quand même un choix qui se pose. Il y a cette morale qui arrive, même si la liberté est aussi célébrée. Il y a quand même cette journée, effectivement, les enfants le ressentent très fort. Ça, on l'a vu d'ailleurs quand on l'a entendu. Hein, il y a vraiment cette joie que tout le monde ressent à son moment d'échappée belle. Mais malgré tout, le fait qu'elle se solde par la mort, non, pour moi, ça reste très déprimant.
Laurent Nunez.
En effet, c'est soit la liberté, mais punie, soit l'emprisonnement salvateur. Il y a forcément une troisième voie, en tout cas on l'espère, mais alors, il faut quand même rappeler que quand même ce conte, il s'est dit au tout début du conte, il a été écrit pour un ami qui était pigiste, c'est-à-dire qui travaillait dans les journaux, mais qui faisait pas partie d'une rédaction.
Voilà, et donc, c'est une lettre adressée à un certain Pierre Gringoire, qui est poète lyrique. Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout, écrit Alphonse Daudet, parce qu'il refuse un travail de chroniqueur, apparemment. Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir être libre.
Oh, voilà. Donc, en fait, c'est une histoire de freelance. Et complètement. L'idée initiale, c'est donc ça. C'est quelqu'un qui hésite à avoir un CDI dans un journal, à être chez Monsieur Seguin. Et on lui dit non, il veut pas. Et Daudet lui dit, mais si, écoute ce que coûterait la liberté. C'est intéressant. C'est un problème qui arrive à cette époque-là et qui arrivait 50 ans ou 60 ans avant, et dont Balzac a déjà beaucoup parlé avec Les Illusions Perdues, etc. C'est le problème du journalisme et de ce qu'on va en faire. Mais en effet, moi, je trouve ça vraiment intéressant les relectures qu'on peut faire. C'est-à-dire que Daudet, s'il parle de ça, nous, on voit autre chose. On ne voit pas du tout un problème de freelance. On voit un problème, en effet, d'agresseur.
De domination masculine, ouais. Également. Il a existé, à votre avis, ce Gringoire, ce poète, ou c'est un personnage fictif?
Je ne veux pas dire de bêtises, mais Gringoire, ça me rappelle quelque chose, quand même.
C'est un personnage de Victor Hugo.
Ah, voilà.
Donc tout est faux dans les lettres de Montmoulin. Ce ne sont pas des vraies lettres, ce n'est pas un vrai moulin.
Visiblement, très souvent, les écrivains ont besoin, pour se distancier des autres, de créer leur propre univers. Et Daudet a réussi à créer un univers, c'est un grand ami de Mistral, donc a créé un univers qui est assez éloigné de Paris et qui en même temps ne comporte presque que des histoires parisiennes. Hein. Il y en a d'autres contes, l'Arlésienne par exemple, c'est une histoire d'amour, etc. C'est quand même des préoccupations assez parisiennes transposées. Et à mon avis, c'est pour ça que à la fois on le lit plus qu'on devrait le relire. On a l'impression que c'est éloigné. Alors qu'en fait, c'est un homme qui était très actuel. Je pense qu'il est inactualisé, si on peut dire, à cause peut-être de la réputation de son fils, qui était anti-Dreyfusard et antisémite, on peut le dire. Et donc du coup, voilà, je pense qu'un Daudet a effacé l'autre.
Mais il faut relire Daudet en 2021, c'est ce que vous dites, Laurent Nunez.
Ah mais complètement, ça m'a donné envie en tout cas. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope
guess things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. Remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. Smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child, girl. Just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl.
Barbe truc, Dorothée Barbe.
C'était Cat Stevens sur France Inter et c'était votre suggestion, Carole Five. Vous nous avez suggéré de programmer ce morceau. Quel lien faites-vous entre cette chanson et la chèvre de Monsieur Seguin?
Ben, je l'ai réécoutée récemment et j'ai, en écoutant les paroles, j'ai l'impression que l'auteur de la chanson, Cat Stevens, parle un peu comme Monsieur Seguin, finalement, à la fille, femme qu'il a quittée, qu'il appelle tantôt baby. Bon, ça, c'est assez pop, donc ça passe, mais aussi beaucoup child, et qu'il compare beaucoup à une petite fille, fillette, petite fille. Et son discours, c'est très paternaliste, c'est « tu me quittes, ok, j'accepte, déjà sympa, mais j'espère que tu as de jolis vêtements à porter, parce que c'est un monde très sauvage, et c'est dur de s'en sortir juste avec ton joli sourire et tes jolis vêtements. Je me souviendrai toujours de toi comme d'une petite enfant, et n'oublie pas qu'il y a des gens très méchants, prends garde à toi, prends garde. » Donc vraiment, il se présente sous le rôle d'un protecteur, et il s'adresse un peu à une femme enfant, immature, irresponsable, qui n'a que son sourire et ses fringues, en gros, pour survivre, comme la chèvre n'a, je sais pas, son pelage blanc. Voilà. Il y a déjà des féministes qui ont remarqué que c'était une chanson assez comme ça, rétrograde et misogyne. Et on fait le parallèle assez facilement, je trouve, avec la chèvre de Monsieur Seguin.
Alors, je me fais l'avocate de Monsieur Seguin. Il la prévient qu'il y a un danger, mais il y avait vraiment un danger. Le loup était dehors, Carole Five.
C'est vrai, mais... Mais elle a tenu plus longtemps que la Renaud, quand même.
Alors la Renaud, on n'a pas parlé de la Renaud. Oui, c'est une autre chèvre qui a été mangée également par le loup. Et l'ambition de la chèvre de Monsieur Seguin, c'est de tenir plus longtemps. Mais pourquoi diable ?
Oui, c'est assez étonnant. Bah, c'est vraiment la dimension de courage, je trouve, qui la caractérise dans ce monde. C'est vraiment, elle y va avec vaillance, avec courage. Et c'est pour ça que je trouvais que la comparaison avec une mère célibataire, pour moi, était intéressante. Mmh. C'est vraiment la mère courage. Voilà, l'idée de la femme qui se bat, qui a coûte que coûte. Et c'est une figure, c'est vraiment une héroïne.
L'héroïne de votre roman, Tenir jusqu'à l'aube, s'échappe la nuit. Alors, au départ, elle s'échappe quelques minutes. Elle laisse l'enfant dormir et petit à petit, elle s'échappe de plus en plus longtemps. Elle devient un peu une mère indigne, hein, une mère qui est jugée par la société autour d'elle. Il y a des parallèles là aussi. Il faut tenir jusqu'à l'aube comme la chèvre.
Oui, c'est ça. En fait, comme elle travaille toujours avec l'enfant, elle est tout dans ce huis clos avec l'enfant. Elle est un peu attachée à son bébé qui a 2 ans, comme la chèvre à son piquet. Et elle rêve de liberté. Donc d'abord, c'est des échappées sur Internet. Et puis en fait, finalement, elle décide simplement la nuit de faire le tour du pâté de maison et puis de s'éloigner de plus en plus. Elle fait des fugues, finalement, qui vont l'amener de plus en plus loin, effectivement, mettre en danger son enfant et puis elle-même. J'ai voulu détourner ce conte. Hein.
On ne dévoile pas la fin de votre roman, mais pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture, mais à la fin, on se rend compte que peut-être le danger n'est pas forcément à l'extérieur. Hein.
Exactement. Mmh.
Laurent Nunez, cette chanson, vous la réécoutez d'une autre oreille ? Cat Stevens ?
En effet, ce qui est étrange entre Cat Stevens et Monsieur Seguin, c'est qu'ils ont les rôles de protecteur. Et quand quelqu'un a un rôle de protecteur, ça veut dire qu'il a réussi à avoir ce rôle-là pour que d'autres dépendent de lui. Et c'est ça, en effet, la chaîne de Monsieur Seguin, c'est pas qu'elle a un protecteur, c'est qu'elle ne sait pas, on lui a pas appris à cultiver elle-même sa nourriture, ni rien et tout. Comme Cat Stevens, il faut oublier que c'est une des conditions féminines. À un moment, il y a quelques dizaines d'années, les femmes ne pouvaient pas avoir de compte bancaire, ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation de leur mari, ne pouvaient pas avoir un appartement. C'est ça aussi ce rôle incroyable du protecteur. C'est en fait, je t'interdis tout, et comme ça, tu ne dois ta protection qu'à moi-même. C'est facile.
Transition toute trouvée. Écoutons à nouveau les enfants et les ados croisés par notre reporter dans les rues de Paris. Voici leur réponse à cette question apparemment saugrenue. Est-ce que tu préfères être un animal sauvage ou domestique ?
Un animal domestique, c'est un peu plus gentil. Et sauvage, ça veut dire que ça peut faire plus de mal à quelqu'un qu'un animal domestique.
En fait, le truc, c'est que les animaux sauvages vivent dans la forêt, dans la jungle, en Europe, mais ils sont libres, alors que les animaux apprivoisés, c'est dans les fermes, dans les maisons, oui, comme les chiens et les chats. Mais quant aux renards et aux loups, eux, ils sont dans la montagne, dans la forêt, ils sont libres et on ne peut pas les apprivoiser.
Je préfère être libre, moi, qu'être enfermé, même si on me protège et me protéger de moi-même.
Domestique,
j'aurais dit. Ouais, domestique.
Non, sauvage.
Mais c'est mieux parce que t'as plus de liberté.
Mais aussi domestique, parce qu'en gros, tu t'es protégé. Comparé aux autres qui sont tués.
C'est pas la loi de la nature. T'es protégé et rien qui peut te donner à manger quand tu veux. Alors que, genre, sauvage, tu cherches à manger, c'est compliqué.
Sauvage.
Sauvage.
J'ai pas envie d'être enfermée toute la journée dans ma maison.
J'aurais bien aimé être une renarde polaire parce que j'ai déjà vu des photos de renards polaires et je les trouve très mignons et ils sont magnifiques.
Moi, j'aimerais être un chat ou un chaton pour vous mieux améliorer. J'aimerais bien que je pourrais aller dans le jardin. Et dans le jardin, il y aurait une jungle et une forêt et des montagnes et beaucoup de trucs où les animaux sauvages vivent.
En fait, ce qui n'est pas terrible dans les animaux sauvages, c'est que les chasseurs les tuent et les mangent. Parce que moi, je n'aime pas les animaux emprisonnés. Je les préfère libres, je préfère quand ils sont joyeux, quand ils s'amusent. Quand on est sauvage, on est libre, on peut courir dans la forêt, on peut se nourrir tout seul, plein de choses comme ça.
Cette éternelle opposition, Laurent Nunez, entre le dehors et le dedans.
Oui, il y a un fantasme très beau là des enfants qui sur l'extérieur, c'est sauvage, c'est être génial. Ça c'est vraiment c'est un mythe de toutes les sociétés civilisées. Mais c'est comme ça qu'on finit à lire des livres qui s'appellent La Panthère des Neiges, à se parfumer d'eau sauvage, à regarder des dessins animés qui s'appellent Rebelle. La non-conformité à la règle, c'est cool. C'est étrange. Peut-être qu'on oublie quand même les bienfaits d'une société.
Il y en a quand même quelques-uns qui disent le domestique c'est sympa parce qu'on va me nourrir, c'est confortable, c'est.
Ouais, non mais c'est vrai. Et c'est pas une vision de petit bourgeois. Hein. C'est que on a besoin.
C'est assez réaliste.
Ouais, on a besoin que nos besoins primaires soient pris en compte pour faire autre chose, écrire, faire de la radio, etc.
Les Lettres de mon moulin, Laurent Nunez, ce sont aussi d'autres nouvelles que La Chèvre de Monsieur Seguin, d'autres contes et notamment La Légende de l'homme à la cervelle d'or. C'est une histoire qui vous touche, je crois. Vous nous la racontez.
Bien sûr, oui. Alors, je vais essayer de la raconter bien, parce que c'est une histoire qui me touche vraiment. C'est l'histoire d'un homme qui. Alors, je raconte comme je m'en rappelle. Mm-hmm. C'est l'histoire d'un homme. Ses parents découvrent quand il est tout petit qu'en fait, il a une tête très très lourde parce qu'il a de l'or dans la tête.
Un jour, il tombe quand il est enfant et on voit des gouttelettes d'or dans ses cheveux. C'est comme ça qu'on comprend qu'il a la cervelle pleine d'or.
Voilà, qu'il a une cervelle en or et donc du coup, il va commencer à à dilapider son trésor, ce trésor intellectuel qu'il a, qui ça sort de là, et il va le dilapider un peu partout. Alors j'allais dire en faisant du journalisme, je sais pas si c'est moi qui rajoute ou si c'est vrai, mais pour moi ça, il va écrire, il va. C'est un prolétaire intellectuel. Il utilise tout ce qu'il a dans sa tête pour le transformer en argent. Et le problème, c'est que le butin baisse, et il rencontre une très belle femme. Il a très envie de lui faire plaisir et il reprend dans son butin, il se gratte la tête. J'ai des souvenirs, à un moment, il raconte qu'il se racle avec les ongles, il prend les derniers morceaux. Et le problème, c'est que du coup, moins il y a de cervelle et plus il devient bête, plus il devient sans pur esprit, moins il peut écrire. Sa jeune femme meurt, il gratte les derniers morceaux pour payer son enterrement et il erre comme ça, comme un homme complètement abandonné dans la rue. C'est assez terrible comme histoire.
Il y a par le monde de pauvres gens qui sont condamnés à vivre de leur cerveau épais en bel orphin, avec leur moelle et leur substance, les moindres choses de la vie. C'est pour eux une douleur de chaque jour. Et puis, quand ils sont là de souffrir, trois petits points. Ainsi se termine cette nouvelle d'Alphonse Daudet. Elle est tragique aussi. Et c'est d'ailleurs sans doute un des points communs. Tous ces contes se finissent mal, Laurent Nunez, les lettres de Montmoulin.
Oui, c'est vrai. Alors peut-être que c'est parce qu'on est dans une époque peut-être où la nouvelle doit avoir une chute et que du coup, il faut que cette chute soit peut-être assez pessimiste. Mm. Et en même temps, ça passe très bien comme c'est les animaux, comme c'est loin. Comme
il y
c'est...
une mélancolie qui est très belle aussi.
Oui. Oui, non, voilà, il y a une mélancolie qui est très belle, qui était peut-être propre à Daudet. Hein. Vous savez, on n'a pas parlé beaucoup de lui, de sa vie, mais il faut savoir que par exemple, Daudet, il était très heureux en ménage, il avait deux enfants, trois même. Et mais il avait un grand problème, il l'a appris très vite. Il a eu une jeunesse, comme beaucoup, et il avait attrapé avec une prostituée la syphilis. Et à l'époque, vous savez, la syphilis ne se soigne pas. On peut pas soigner, donc on sait que dans 10, 15, 20 ans, il y a plus de symptômes, tout à coup ça réapparaît en neurosyphilis. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous savez, comme Baudelaire, qui à la fin de sa vie ne peut plus dire que crénom, et qui finit à l'hôpital sans pouvoir parler, en disant que ce mot, cette insulte crénom, Daudet, il savait que c'est ça qui allait lui arriver. Il savait qu'à la fin de sa vie, il n'allait plus avoir sa tête. Et donc, il pouvait plus écrire, il pouvait plus rien faire. Moi, je pense, ce conte, L'homme à la cervelle d'or, c'est aussi ça. C'est aussi l'histoire d'un homme qui sait que sa cervelle va se réduire très bientôt. Et voilà, c'est aussi pour ça que ça me touche. C'est un homme qui sait que son talent va disparaître.
Et c'est aussi l'histoire de toute l'humanité qui a un trésor dans la tête et qu'il s'agirait pas de gâcher, peut-être.
Alors, ça, c'est vrai. Moi, je le ressens toujours quand j'écris des livres parce que on a beau écrire des livres, on sait pas trop comment ça marche. Et c'est comme s'il y avait une sorte de, pour reprendre les contes, comme s'il y avait une sorte de caverne d'Ali Baba, de l'imaginaire. Mais on sait pas très bien comment on fait pour y rentrer, ni pour en sortir. On a toujours peur que ça disparaisse, qu'on n'arrive plus à y rentrer. Et donc, en effet, c'est ça. C'est comment ça se fait qu'on arrive à transformer nos idées en choses sonnantes et trébuchantes que les gens peuvent acheter.
On trouve aussi l'Arlésienne dans ce recueil de nouvelles, une très belle histoire d'amour, un homme qui meurt d'amour. Quelle est votre nouvelle préférée, vous, Carole Fives, dans ce recueil?
Effectivement, j'aimais bien La mort du dauphin, mais l'Arlésienne, pour en parler aussi après La légende de l'homme à la cervelle d'or, et même ces deux nouvelles où la femme est fatale, en tout cas, où ça sort de par la mort à cause d'une femme. C'est la femme qui va finalement ruiner l'homme à la cervelle d'or. Et l'Arlésienne, c'est pareil, c'est une femme fatale qui va mener à sa perte. Moi, j'aimais bien, La mort du dauphin, parce que je trouve qu'elle était assez étrange et... un enfant qui est dans son monde, qui va mourir, donc le dauphin, le jeune dauphin. De son point de vue d'enfant, mourir, c'est pas très grave. De toute façon, puisqu'il est le dauphin, le fils du roi, il va pouvoir lutter contre la mort, et puis il va lui arriver encore plein de choses super, parce qu'il est très bien préparé, très bien entouré, qu'il est dans un château, etc. Il voit vraiment la mort de son point de vue d'enfant, et ça lui paraît, tout le monde pleure autour de lui, mais il ne comprend pas. À ce moment-là, il y a l'évêque qui va arriver, et qui va lui expliquer ce que c'est vraiment la mort, qui va réussir à le faire pleurer, juste avant de mourir, et qui va presque le tuer une seconde fois. Donc je trouve que c'est assez étrange, assez beau, et assez anticlérical finalement, et assez neuf comme par rapport au reste du recueil. Je trouve que c'est intéressant. Ouais.
Laurent Nunez.
Ouais. Là, on parlait de l'Arlésienne. Carole disait que c'était encore une femme fatale qui tuait un homme. C'est pas vraiment ça. C'est le patriarcat. Hein. C'est-à-dire que c'est les parents. En fait, c'est un homme qui adore une femme. Et
on découvre qu'elle a une mauvaise vie.
On découvre qu'il y a un homme qui dit, elle a été ma maîtresse. Et à partir de là, c'est les parents de l'homme qui refuse qu'il épouse cette femme. Donc c'est pas la femme qui est coupable, hein. C'est ce monde incroyable où dès qu'une femme n'est plus considérée comme pure vierge ou qu'elle a, il faut qu'elle prouve qu'elle n'a pas eu de vie avant, sinon on peut plus l'épouser. Là c'est moderne, c'est vraiment un conte moderne.
C'est très riche en tout cas. Les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet sont disponibles en livre de poche pour 2,80 €. À partir de quel âge d'ailleurs en conseille-t-on la lecture, Laurent Nunez?
Moi je l'ai lu en 6e. Mes professeurs m'ont fait étudier en 6e et ça passait très bien.
J'ai aussi d'autres conseils de lecture jeunesse dans ma besace grâce à Denis Chessou, que voici.
Dorothée Barba sur France Inter. La tulipe, mon petit loup.
Merci Dorothée Barba. Nous débutons avec Le Petit Monsieur, signé Oriane Lallemand et Anne-Isabelle Le Touzet, aux éditions Glénat Jeunesse. C'est pour les 5-8 ans. C'est un conte moderne autour des migrants et de l'entraide qui fera réfléchir petits et grands.
Il était une fois un petit monsieur qui vivait seul dans sa jolie grande maison en bord de mer. Le matin, il s'amusait avec ses trains électriques.
Alors, vie simple, bien rangée, sans surprise, il était heureux, pas exigeant, s'ennuyait un peu. Bon, un gentil papy. Et puis un jour, un bateau plein de réfugiés débarque sur la plage du village.
Regards sombres, baluchons, habits déchirés, ils portaient sur eux toute la tristesse du monde.
Eh, hey, qu'est-ce qu'ils font ceux-là ? Se demanda-t-il en les voyant au marché.
Que font-ils ici ? D'où viennent-ils ? Des réfugiés, des gens sans maison, sans toit, sans foi ni loi.
Et lors d'une réunion d'explication, de rassurance organisée par le maire, eh ben celui-ci demanda « Hey, qui peut les accueillir ?»«
Moi !» s'exclama-t-il sans savoir pourquoi.
Un petit oui, un coup de tête qui va bouleverser sa vie et celle des autres. Alors il se pose des questions.
« Craint le vol. » »«
Il craint la violence. » »«
Le saccage. »
Et le petit monsieur avait peur, mais il comprit que les étrangers avaient encore plus peur que lui. Alors à partir de là, ce fut du partage, des repas, et puis Assad, le gamin, prit confiance, ils jouèrent sur la plage.
Hamel, le père, répara et améliora le train électrique, bricolage commun.
Puis Amila prépara une spécialité de son pays. Et de ce jour, eh bien, les sardines furent oubliées, ils échangèrent aussi leurs mots.
Un mot à lui contre un mot à eux.
Et chaque matin, il emmenait Assad à l'école. Alors vous avez des décors et des fonds colorés très tendres d'Isabelle Le Touzet, choix de figures animalières pour les migrants, pour alléger quand même un sujet assez solide.
Un matin, la mairie appela. Un logement s'était libéré, la famille pouvait y habiter.
Et en ces périodes de racisme ou de crainte de l'autre, de celui qu'on ne connaît pas, et bien cet album très frais, gai, fait du bien. On évite la bien-pensance et le misérabilisme, on ne nie pas la peur, mais on la dépasse. Et on privilégie la solidarité, le passage à l'action et l'enrichissement mutuel.
Le jour du départ, le petit monsieur avait dans le cœur toute la tristesse du monde. Assad prit sa main. « Grand-père, demain après l'école, je pourrais venir jouer chez toi ?»
Alors il sourit et son cœur se réjouit. Donc de la bonté et une source de discussion enfants et parents avec le petit monsieur Oriane Lallemand, Anne-Isabelle Le Touzet, aux éditions Glénat Jeunesse, c'est à partir de 5 ans. « Hey Jimmy !» signé Anna Walker aux éditions Kaléidoscope à partir de 5-7 ans. Ah, c'est l'histoire de Jack et son père qui est pas très bavard.
Le papa de Jack aimait raconter des blagues, mais il en disait de moins en moins.
Alors Jack n'est pas dupe, hein. Il sait que les silences de son père dissimulent quelque chose. Mais son quotidien est bouleversé par une arrivée étonnante. C'est l'événement. Même si Jack n'aime pas trop les surprises, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un perroquet.
Il s'appelle Jimmy. Je l'ai trouvé sur le pas de la porte l'autre jour, juste après l'orage.
Alors le perroquet se sent vite à l'aise dans la nouvelle maison. Il parle fort, il répète les mêmes choses.
Papa adorait Jimmy. Il lui racontait ses blagues et Jimmy riait.
Et ce nouvel arrivé bouleverse complètement la vie du petit garçon et de son père qui semble retrouver goût au quotidien.
Il sait parler, il sait marcher, il sait même faire la vaisselle. Il est incroyable.
Et Jack, lui, il se sent pas très incroyable. Hein. Et puis tout le monde adore Jimmy, et peut-être même plus que lui.
Maintenant, papa avait un ami pour lui tenir compagnie. La maison n'était plus silencieuse du tout.
Et puis une nuit, Jimmy s'échappe.
Oh, hey, Jimmy !
Alors Jack le recherche. Il arpente toute la ville en criant le nom de l'oiseau pour espérer le faire revenir. Mais en vain, il reste introuvable. Et son père applique à toute vitesse. Oh, il va falloir lui annoncer la mauvaise nouvelle. Mais ses préoccupations à lui sont ailleurs.
Ce n'est pas Jimmy que je cherche, c'est Jack.
Alors, Oh et Jimmy fait partie de ces ouvrages qui racontent beaucoup de choses avec peu de mots. Jack se heurte à la souffrance psychologique de son père, dont il devient le réceptacle impuissant. Et Anna Walker propose ici un livre d'une profonde sensibilité, d'une grande humanité sur la parentalité lorsqu'elle est bouleversée par des événements qui soient positifs ou négatifs. Donc, c'est un album bouleversant dans sa façon de raconter l'amour filial, dans son imperfection, sa subtilité et sa générosité. Et Jimmy, aux éditions Kaléidoscope à partir de 5 ans. Merci à Xavier Pestudia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala et Eric Oswald. Denis Chessou, nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup, Denis. Pour retrouver les références des livres cités, on se connecte sur franceinter.fr à la rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?». Cette émission touche à sa fin. Avant de libérer mes invités et de les laisser gambader dans la montagne, telles des chèvres de Monsieur Seguin, j'ai une dernière question à leur poser. Question rituelle qui convoque vos souvenirs personnels. Quelle est l'odeur de votre enfance, Carole Five ?
L'odeur de mon enfance, ça serait, ouais, peut-être une odeur sucrée, caramel, chocolat, quelque chose comme ça.
C'est pas mal. Laurent Nunez ?
Oh, bah, parce qu'on parle des livres. Moi, j'étais le genre de gosse qui, à la pause du collège, filait au CDI, donc c'est l'odeur des vieux livres. Mais vous savez, les collections de poches qui jaunissent.
Qui ouais. Sentent un peu la poussière, hein.
Mmh. Oui, mais vous faites avec la grimace. C'est une odeur
qui sent un peu la poussière.
voilà, qui ont vécu.
Voilà, de la poussière et du caramel, ça rejoint notre grand bocal des parfums de l'enfance. Regardez-moi jongler de Laurent Nunez est à lire aux éditions du Cerf. Extrait d'une collection d'ouvrages sur les 7 péchés capitaux, c'est une réflexion sur l'orgueil, sur la vanité. Et je recommande aussi votre livre précédent sur les mots qui n'existent pas en français. Ça s'appelle « Il nous faudrait des mots nouveaux ». Carole Five, votre dernier roman, « Térébenthine » est à lire chez Gallimard. Et le précédent, où l'on trouve donc cette chèvre de Monsieur Seguin entre les lignes, ça s'appelle « Tenir jusqu'à l'aube » et c'est disponible en livre de poche chez Folio. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée et à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci.